Cuisin, secondes ombres sanglantes, les catacombes espagnoles, faits historiques. Les forfaits en tout temps sont l'histoire du monde. Hamlet. Si l'Europe ensanglantée par de longues guerres était divisée en couleurs allégoriques qui indiquassent le degré de calamité qui pesèrent le plus sur chacune de ses parties, ne serait-ce pas indubitablement la couleur pourpre, la couleur de feu, qui désignerait l'Espagne comme ayant été le théâtre le plus arrosé de sang, le plus souvent embrasé des feux de la guerre. Ces dévastations immortelles prennent rang parmi les ravages merveilleux du héros macédonien et l'expédition de Cambyse, la retraite de Moscou, les boucheries de Cagna seront dans la postérité trois drames sanglants, égaux en horreur belliqueuse. Superbes et malheureuses contrées, vos tours, vos forteresses, fument encore de leurs ruines et de leurs bruyantes explosions, et les ossements de vos dernières générations ébrèchent souvent encore le socle du laboureur. Hélas, à vos mânes plaintifs se joignent les ombres plus plaintives de nos guerriers. Notre gloire nationale, veuve de ces héros, est étroitement liée à vos triomphes. Elle a fondé des temples dans vos sanglantes catacombes, et tout en exécrant la cause de vos succès, vous ne pouvez séparer nos exploits de vos sacrifices. Si donc la Castille, l'Andalousie, l'Aragon veulent restaurer leurs villes démantelées, relever leurs monuments militaires et religieux, partout elles rencontreront les sépulcres glorieux de nos braves, qui, un poignard encore dans le sein, attestent qu'ils sont morts au champ d'honneur sous les coups du fanatisme national et religieux. Ici, par exemple, sous les décombres de ce couvent, est le crâne d'un dragon encore enveloppé des débris rouillés de son casque. Là, dans ce sillon, le cultivateur heurte la carabine du cet intrépide voltigeur du 25e. Sur le rive du Tormes, desséché par les grandes chaleurs, on entrevoit dans la vase des morts, des selles, des squelettes de chevaux et d'hommes de cuirassiers dont l'armure indique le régiment et la gloire. De tel côté qu'on porte ses regards étonnés, on rencontre d'illustres restes qui serviront de plus illustres chronologies à nos neveux pour établir la série des hauts faits de l'armée française en Espagne. Nous n'examinerons pas ici la question délicate de savoir si cette guerre fut impie, suivant l'expression de quelques publicistes. Nous ne voulons y saisir d'abord que cette touchante occasion d'y admirer entre des forêts épaisses de cyprès ces beaux rameaux de laurier que nos bataillons y ont semés et qui ont cru comme des plantes indigènes. Oui, nos ennemis les plus injustes ne sauraient le contester. Nos trophées ont poussé de profondes racines sur la terre des exploits du grand Pompée, d'Hannibal et du Cid. Et du haut des Pyrénées, la renommée planant sur la cendre de 500 000 Français répand dans l'univers qu'ils y moururent pour renaître à l'immortalité. Nous passerons rapidement sur les premières commotions de la Révolution espagnole qui, en 1808, fraternisa avec nos boucheries démagogiques. Nous tairons également tous ces épisodes affreux dans lesquels les gouverneurs des villes, soupçonnés de haute trahison, furent coupés en morceaux dans les bras de leurs épouses, de leurs enfants, entre autres celui de Saragosse, auquel les conjurés arrachèrent le cœur et en souffletèrent les joues de sa femme. Et nous placerons de suite la scène à ce point d'intérêt dramatique où la Galice, l'Estramadour, la Nouvelle-Castille et les Asturies tenaient l'Europe attentive devant leur soulèvement spontané. C'est là que nous verrons de nombreuses guérillas grossi par la vengeance, la rage et l'astuce, et l'activité nocturne frappent des victimes dans nos convois imprudents, dans nos détachements isolés et jusque dans nos hôpitaux, asile sacré que les symboles et les sites les plus farouches n'auraient pas osé profaner d'une main sacrilège. À l'ardeur brûlante du climat se joint l'ardeur brûlante de la vengeance. Une désintelligence sourde a d'abord succédé à l'arrivée des Français. La discorde agite ses torches dans les provinces, et les symboles de la divinité servent d'oripeaux aux intérêts politiques des moines. Enfin, le désordre inhérent à la guerre, achevant d'enflammer les ressentiments d'un peuple trop prompt à s'irriter, ce n'est plus que par le fer ou le feu que les Espagnols et nos armées se communiquent. Ces premières hostilités jalonnèrent les routes de la Catalogne et de la Biscaye de cadavres et de membres ensanglantés, qui, liés au branchage des arbres, n'annonçaient que trop aux voyageurs épouvantés qu'il était déjà sur la terre du carnage. En effet, à chaque pas, son cheval effrayé repoussait dans la fange des crânes, des chevelures souillées de boue et de sang, des troncs défigurés qu'un fer impudique avait privés de leur sexe. Ou bien les roues de la voiture brisaient les têtes et en faisaient rejaillir la cervelle dans des ornières teintes de sang. Approchait-il des rives de l'Èbre, sous les murs fumants de Burgos, de si glorieuse mémoire, des corps flottants venaient lui annoncer la victoire éclatante remportée sur les troupes du général Mina. Qui ne connaît la célèbre catastrophe du convoi des Anglais dans des défilés de Salinas, dont le général Lejeune a fait d'ailleurs un si magnifique tableau. Ainsi, soit que l'œil se fixât sur des routes royales, soit que, croyant éviter toutes ces horreurs en franchissant par la traverse des montagnes éternellement couvertes de neige, on crut pouvoir s'en éloigner, partout l'âme navrée du voyageur ne voyait que sang et destruction, et la mort avait creusé des tombes là où les oiseaux de proie parvenaient à peine à planer. Spectacle horrible, vous serez toujours présent à ma pensée. Je vois encore entre Valladolid et Salamanque cet escadron de dragons mutilés et teignant l'herbe des caillots de leur sang. Vaincus par le nombre et succombant sous le couteau de 3000 lanciers, ils perdent dans 1000 tortures une vie qu'avaient épargnée les foudres d'Austerlitz et les frimas d'Elo. Comment aurais-je le courage de peindre ce tableau épisodique, plus affreux peut-être que le radeau de la Méduse? Si d'un côté l'humanité n'arrête pas ma plume, d'un autre la pudeur la retient. Montrerai-je à mes lecteurs la tête charmante, ensanglantée de ce jeune Mars, qui, pour prémisse funeste de son courage, succombe seul sous les coups de 5 meurtriers? À peine sorti d'un lycée, berceau de sa jeune audace, il tombe moissonné comme une tendre fleur. Les barbares, insensibles à sa jeunesse, à ses grâces, lui arrachent, lui clouent le cœur sur le front, portent une lame homicide. Non, je n'achèverai pas, son amante frémirait. Et nouvelle Héloïse, comment supporterait-elle l'idée que son amant idolâtré est descendu au tombeau en faisant rougir l'amour de ses blessures? Et vous, Amazones intrépides, couvertes du sang de nos héros, dites-nous quel génie infernal vous souffla cette frénésie fanatique? Était-ce l'amour de la gloire, de la liberté, de la religion, ou seulement l'orgueil castillan qui vous inspirait ce mépris de tant de périls? Non, la vengeance seule armait vos bras féminins, et le plaisir affreux d'égorger un Français fut pour vos sens la coupe même de la volupté. Vous n'en fûtes pas moins de vaillantes héroïnes. On va jusqu'à dire que, sortant à peine de vos bras amoureux, plus d'une fois vous perçâtes dans la même nuit le sein que vous aviez effleuré de vos baisers, et qu'au délire des sens succédait immédiatement toute la fureur de l'esprit de parti, tout le feu des brûlantes africaines. N'en rendons pas moins justice à ces fidèles compagnes qui ont épousé la cause des Français et qui, après avoir partagé leurs dangers depuis nombre d'années, se sont associées à leurs infortunes. Parmi les femmes célèbres qui levèrent des bandes contre les corps d'armée, on cite la fameuse Collegiala comme une des plus vaillantes Jeanne d'Arc de l'Espagne. Faisant le coup de sabre comme le premier des hussards, elle se vanta souvent d'avoir immolé de sa propre main plus de 20 Français. Découvrez donc votre sein, superbe Spartiate. Montrez les balles qui l'ont percé. Les pensées de l'amour s'évanouiront à l'aspect de si imposantes cicatrices, et la pudeur n'a pas besoin de voile quand elle se pare du sang des batailles. Cet exorde préparatoire a dû faire suffisamment sentir au lecteur que sa sensibilité va être mise à de pénibles épreuves dans les catacombes espagnoles. Partout du sang et toujours du sang. Souvent le sexe, l'âge ni le rang ne trouvèrent grâce devant l'épée du vainqueur, si ce n'est le Français qui, dans sa bouillante valeur, sut toujours se laisser désarmer par les larmes d'une jeune beauté. Il est vrai que l'aspect de nos victoires, victimes mutilées, le fit quelquefois agir de représailles, et que les vastes bûchers de la Galice, province dans laquelle les Espagnols eurent aussi leurs vêpres siciliciennes, vengèrent d'une manière éclatante nos escadrons d'hussards égorgés. Mais, rejetant sur la fatalité d'aussi horribles catastrophes, n'accusons personne et poursuivons le tableau de nos ombres sanglantes. Entre beaucoup de partisans renommés, tels que la Romana, Cfandino, les Frailes, Don Juan, l'Empeziano, El Cura, Talico, fut sans contredit un des plus redoutables chefs de parti qui décimèrent nos convois, nos transports de malades et nos troupes prises au dépourvu. Son système sanguinaire était de ne faire aucun quartier, et il prononçait un arrêt de mort contre tout prisonnier amené dans sa catacombe. Instruit que les ordres avaient été donnés dans l'armée française pour qu'on passât au fil de l'épée tout Espagnol prisonnier qui ne pourrait plus marcher, ordre politique qui avait été conçu dans l'esprit d'éviter d'augmenter la force des guérillas, et que plusieurs de ses compagnons avaient péri à Valladolid de la main de Bureau, que leurs membres avaient été dispersés et que leurs entrailles avaient été attachées à des poteaux élevés sur les lieux théâtre de leurs crimes, Chalico prononce le serment affreux d'être implacable dans ses vengeances. On dit à cet égard que son épouse et sa fille ayant été violées et massacrées dans un fort pris d'assaut par le VIe corps, sa maison incendiée, à quoi n'entraîne pas les malheurs de la guerre, le ressentiment qu'il conservait de ses pertes, arma son bras et le rendit inexorable chaque fois qu'il eut le dessus dans les expéditions de nuit. Sa coûteuse célébrité mérite bien que nous en faisions ici un rapide portrait. Chalico était très bel homme, dans la force de l'âge, mais d'une rudesse de caractère et d'une férocité sans exemple. Les homicides militaires étaient pour lui une action purement physique qui effleurait à peine son âme et n'altérait pas un instant son sang-froid. Faire un prisonnier, le saigner, sangriarle en espagnol, suivant son expression, était une chose qui marchait comme d'elle-même. Quelquefois, il est vrai, dérogeant à cet usage philosophique, il brûla plus d'une fois la cervelle au malheureux que le courage avait trahi. Mais alors il regrettait sa poudre et avait une sorte de repentir de ce défaut de suite et de tenue dans sa conduite et ses opérations. À la tête de quelques escadrons de troupes légères, d'un certain nombre de fantassins, comme les Romains, il se parait des dépouilles et des armes de l'ennemi. Son casque était donc quelquefois celui d'un officier de dragon, ou bien le colbac d'un brillant capitaine d'hussard du IXe. Et dans son accoutrement, on retrouvait, ainsi que dans beaucoup d'autres guérillas, des fragments de divers uniformes. Il était d'ailleurs impossible de le prendre vivant, car il avait, si je puis m'exprimer ainsi, un arsenal et une sainte barbe sur sa perruque, personne, sur sa poitrine hérissée de toutes parts de poignards, de stylets, de coutelas, de pistolets à légère détente. Et sa ceinture, à laquelle pendait une large lame damassée toujours nue, ainsi que les épaules chargées d'une lourde espingole, ne permettaient pas de concevoir l'idée de l'attaquer sans courir les plus grands périls. Terrible pour ses soldats, il punissait un acte de clémence comme la plus grande infraction à la discipline et répondait à tout « Il fallait le saigner !» La terreur des villages, des forêts, des montagnes qu'il parcourait, il avait plus d'une fois fait trembler des Espagnols même, qu'il accusait, sur les plus légères conjectures, d'espionnage et qu'il faisait fusiller au pied de son cheval. Là, c'est à propos, racontons les malheurs de cette jeune personne de Tordesillas qui, ne présumant aucun danger à se charger d'une lettre pour le gouverneur de Valladolid, voulut complaire au commandant français de Tordesillas en prenant cette dangereuse missive. Elle part sur sa mule, accompagnée d'une servante, mais elle est à peine dans le bois qui aboutit à la ville qu'elle aperçoit deux embusqués, deux guérilles du parti de Chaleco. Aussitôt, elle se rappelle la lettre fatale et calculant, mais trop tard, le péril et son imprudence, elle la jette avec le plus de mystère qui lui fut possible dans un buisson. Malheureusement, les cavaliers espagnols l'avaient vue et s'élançant sur elle et du côté du buisson, ils s'emparent de la lettre, la portent à Chaleco et fournissent ainsi la preuve de la prétendue intelligence de cette jeune personne avec les Français qu'elle sert, disent-ils, au préjudice de son pays. L'entourer, l'enlever ainsi que sa servante de sa monture, lui placer la pointe de 20 poignards, de 20 sabres sur le sein, agiter quel sera son genre de mort et de déshonneur, fait pour l'infortunée Raffaella, c'est ainsi qu'elle se nommait, un premier supplice qui répandit dans tous ses sens la terreur et l'effroi et fit palpiter son cœur des plus douloureuses angoisses. Et ce cœur aimant pour comble d'infortune était plein de l'image d'un Français auquel une constante vertu avait jusque-là refusé les faveurs de l'amour. Et par une cruauté du sort sans égale, il fallait livrer à des forcenés une fleur qui ne devait être cueillie que par l'amant devenu l'époux légitime. N'affligeons pas la sensibilité de nos lecteurs en prolongeant une scène aussi affreuse. Et pendant que Donna Raffaella, dépouillée de ses plus secrets vêtements, devenue le plastron d'une luxure soldatesque, expire sous le nombre de ses meurtriers, que sa compagne éprouve le même sort, étendant un crêpe épais sur son corps sanglant, sur son sein lacéré de coups de couteau, et délaçant notre esprit, notre cœur déchiré de cette affreuse image, en songeant que les anges auront reçu Raffaella dans leur sein, comme une vierge martyre à qui Dieu voulait faire acheter le bonheur éternel par les douleurs les plus terribles que puisse endurer une simple mortelle. Mais si le stérile succès de ces assassins n'avait trouvé aucun obstacle, la scène va bientôt changer. L'horizon déjà se rembrunit du nuage de 1000 épaisses crinières flottantes. Les derniers rayons pourpres du soleil se réfléchissent sur des casques éclatants et mobiles qui, de loin, déploient le prisme d'une mer de feu. Le tableau s'approche, des lames brillantes se décèlent, des clairons, des hennissements de chevaux se font entendre, et enfin, pénétré d'une sombre terreur, Tchaleco a recumé trop tard les dragons, les héros de Kellerman. La fuite plus dangereuse que le combat était donc un parti auquel il ne fallait pas songer. Notre héros le sentit et, se soumettant à sa fortune ainsi qu'au hasard des combats, il déploya un courage, une valeur qui tenait du prodige. En vain les brides de son casque coupées dans 10 endroits, son bras affaibli de 2 larges coups de sabre, son cheval blessé d'une balle au poitrail, semble-t-il le forcer de se rendre en discrétion. En véritable chevalier espagnol, il efface sa férocité par sa valeur et ne connaît d'autre alternative qu'un trépas glorieux ou le triomphe. Ces gens, en n'opposant pas de résistance, il fut enfin forcé de céder à l'impulsion de leur retraite et abandonna à la faveur des ombres de la nuit un champ de bataille qu'il laissa jonché de ses troupes. Vous étiez vengé, ombre sanglante de Raffaella. Le sang de vos bourreaux versé goutte à goutte à vos pieds, les guerriers encore vivants achevés à coups de sabre à vos côtés même, et rendant le dernier soupir près de vos mortelles blessures, était sans doute une digne expiation que les Français faisaient faire à vos assassins. Mais en rouvriez-vous davantage vos longues paupières couvertes des ombres du trépas? La mort les avait fermées pour toujours, et la terre même aurait dû s'empresser de cacher dans son sein des attraits flétris, meurtris par d'infâmes profanateurs. Les dragons relevèrent sur une civière formée de branchages les corps de ces 2 jeunes victimes, et après les avoir couverts d'épais feuillages, ils les transportèrent jusqu'à Tordesillas, où le commandant de la place leur fit faire un service digne de leur fin funeste. C'est à l'amant de Raffaella à en composer la touchante élégie et à exhumer du cercueil, dans une poésie de douleur, dans une urne d'or, ce cœur fidèle, ces sentiments de tendresse qu'elle conserva pour lui jusqu'à ses derniers moments. Pour nous, nous nous bornerons à jeter quelques fleurs sur sa tombe. Notre tâche douloureuse étant de décrire continuellement des scènes de sang et de carnage, nous allons suivre dans sa retraite précipitée le vaillant Tchaleco, d'autant plus que, dans sa défaite, il emmène prisonnier le fils unique d'un général de division, aide-de-camp qui se trouvait parmi les dragons Kellerman, et en fait la sauvegarde de son propre fils, qui, étant tombé lui-même dans une embuscade pour les Burgos, offre à notre plume la peinture des caprices les plus étranges de la guerre. Tchaleco, après avoir parcouru à toute bride un espace de 20 lieues, avoir tourné Salamanque et s'être enfoncé avec ses guerrilles dans la forêt de Ciudad Rodrigo, gagna insensiblement celle d'Alba, et plaçant ses vedettes, il se jeta dans l'espèce de caverne qui lui servait de quartier général. Tel qu'un lion blessé par les numides se retire furieux dans son antre et léchant le sang de ses plaies rugit en silence et médite sa vengeance, tel Tchaleco, irrité de ses blessures, n'y donne qu'un soin distrait, et ne songe à les guérir qu'avec du sang français, comme le seul baume qui puisse les cicatriser. Cuerpo de Dios, carraco de demonio, l'entend-on jurer entre ses dents. Me la pagaron. Ses officiers n'approchent plus de lui qu'en tremblant. Les regards qu'il jette à la dérobée les font frémir, et chacun craint de payer de sa personne les malheurs de la journée. Cependant, Maragato, son teniente, place sur la table de l'eau-de-vie, du rhum et des cigares, y met des vivres pris sur les Français, et persuadé qu'il ne pourrait rien lui dire de plus agréable, lui glisse à l'oreille. Eh bien, l'aide-de-camp que nous avons mis, en attendant les ordres, dans le caveau des agonisants, Sangrarle? Garde-t'en bien, reprit avec véhémence Chalico. La vie, ta vie me répondra de la sienne. Ne sais-tu pas, Maragato, que mon fils, mon cher fils Seferino, a été pris par le cinquième corps, et que ma rage captivée par ces considérations ne peut que s'exhaler en vain soupir. Si l'aide de camp, m'a-t-on fait dire par un cartel, n'est pas respectée, mon malheureux fils périt sur l'échafaud. Alternative cruelle, qui déchaîne mes justes ressentiments et oppose à ma fureur une digue invincible. C'est ainsi que Chaleco exhalait sa douleur, et son plus mortel déplaisir était de ne pouvoir verser le sang précieux qui était à sa disposition. « Ôte-moi ces armes qui me pèsent, » dit-il d'un air soucieux à un officier de sa suite. « Je les aborde, puisqu'elles ont trahi ma valeur aujourd'hui. » On le dépouille donc de son arsenal, et tout désarmé qu'il est, il paraît encore, seulement animé de sa sombre fureur, le plus dangereux des mortels. Quel tableau! Si l'on considère surtout les localités dans lesquelles Chaleco joue le principal rôle de cette scène. Vraies catacombes effroyables, les lambris, les plafonds et le parquet ne sont pavés que d'ossements humains, recueillis sur le champ de bataille d'Alba. Partout, vous n'y êtes entouré que de boiseries osseuses, et des cervelles d'hommes y ont servi de mortier. La lampe est un crâne renversé duquel s'élève une flamme rougeâtre, et le pied glacé d'horreur n'y foule que des squelettes hideux. Tel est le sanctuaire de la vengeance, qu'Isis elle-même n'aurait habité qu'avec effroi. Chaleco, succombant à l'amertume de ses réflexions sur les pertes de la journée, allait enfin accorder ses droits au sommeil et s'étendre sur une grossière natte de joncs, quand un tumulte affreux se fait entendre près du souterrain. Chaleco se jette sur ses armes, et le sabre en main allait courir au-devant du péril, quand des guerriers de sa bande, ou plutôt des monstres altérés de sang, amènent pieds et poings liés trois infortunées victimes qui, s'étant attardées dans un convoi parti d'Alba pour Salamanque, étaient tombées entre les mains de leurs bourreaux. « Oh, sort affreux !» s'écriait Angelina, l'épouse d'un quartier-maître d'artillerie, en jetant sur son mari lié avec elle, ses yeux nageant déjà dans la mort. « Fatale destinée !» C'est peu de mourir, mais quelles tortures épouvantables ne nous sont pas réservées. Vicenta, sa sœur plus calme, considérant toujours Dieu dans l'avenir, se confiait à la Providence et fondait ses nobles espérances sur sa religion. Hélas, nous voudrions bien servir à ces trois infortunés d'anges tutélaires, leur ouvrir d'une baguette magique les portes de ces sanglantes catacombes. Mais vains efforts, il faut qu'ils périssent. Et pour surcroît de douleur, il faut que nous retracions le douloureux tableau de leur plus douloureuse agonie. À genoux ! S'écria en français le chaléco, en s'adressant à M. de Blincourt, quartier maître d'artillerie de la jeune garde. À genoux, reprit M. de Blincourt. Un Français ne s'y met que devant Dieu. À cette réponse prononcée d'une voix ferme, le capitaine des guéris élève son bras armé d'un poignard triangulaire et à dents de scie, et se dispose à le plonger dans le sein de l'officier français. Mais, se rendant maître de ce premier élan de fureur, il semble qu'il dédaigne de tremper ses mains dans ce sang précieux, et faisant un signe à ses soldats, de Blincourt, l'infortuné de Blincourt, est aussitôt entraîné, sans pouvoir à peine jeter un dernier adieu sur son épouse à demi évanouie. Ses gémissements n'apprirent que trop tard à la belle Angelina qu'il avait cessé de souffrir. Et dans cet état d'horreur et de désespoir, elle était réduite à envier le sort de son époux. Que faisait Chaléco dans cette situation atroce? Portant ses regards dédaigneux et cruels sur la tendre Angelina, sur sa sœur plus touchante, plus intéressante peut-être par sa candeur et son jeune âge, il paraissait chercher des termes plus sanglants que les coups qu'il destinait à ces deux êtres angéliques. « Ainsi, leur dit-il en balançant la tête avec ironie, voilà les beaux résultats de votre fol amour pour un Français. Trahir sa patrie, déshonorer sa famille. Telle est la conduite criminelle d'une infinité de prostituées qui ont eu l'impudeur de serrer des liens avec l'ennemi odieux, l'ennemi mortel de leur nation. Angelina se serait glorieusement justifiée en opposant à cet insultant discours la légitimité de son union et la réputation intègre de son mari. Mais ce cher époux était dans la tombe. Cet amant, ce mari si cher, avait passé les sombres bords, et rien désormais ne pouvait attacher Angelina à la vie. Et si elle eut un instant la pensée de fléchir ses bourreaux prêts à la frapper, ce ne fut que pour implorer la grâce de sa sœur, dont les charmes et l'innocence auraient adouci les tigres les plus sauvages. Après quelques questions dérisoires sur la grossesse très avancée d'Angelina, Chaléco lui ordonna, ainsi qu'à Vicenta, de faire sa dernière prière. Cette erreur de la mort, dont l'âme la plus stoïque ne peut se défendre, arrachèrent de leurs yeux quelques larmes d'épouvante. Mais bientôt, se roidissant contre l'adversité, elle présente une gorge docile au cou des assassins. Angelina, frappée la première du terrible Dama, tombe et nage dans son sang. Le coup qu'elle a reçu dans les entrailles fait rouler son enfant sur ce parquet de crâne et d'ossements. Vicenta, plus infortunée, faisant naître des velléités monstrueuses dans l'esprit des satellites de Chaléco, succombe et déshonorée, et n'est pas assez heureuse pour monter au ciel avec cette pureté divine qui naguère animait son âme et sa personne. Ainsi, en quelques minutes, ces catacombes infernales deviennent une morgue horrible, et des chairs encore palpitantes ne perdent entièrement leur vie physique, machinale, que sur la glace des anciens ossements qui leur servent de sépulture. L'histoire, moins scrupuleuse que nous, ira plus loin encore, et voulant préserver les générations futures de tant d'excès, elle leur dira que des peuples civilisés, des peuples du XVIIIe siècle, furent anthropophages et prirent pour aliment des objets sacrés que la pudeur même ne permet pas d'indiquer. Ô nuit des tombeaux, redouble tes ombres et ne révèle jamais à l'avenir le mystère de tant de forfaits. Et toi, divine Clio, ménage la pudeur de l'Europe dans les narrations trop austères. Dérobe au siècle futur nos erreurs insensées. Fais le roman de nos vertus et non l'histoire de nos crimes. Et rends-nous moins terrible le jugement de la postérité. Le lecteur, captif, si je puis me servir de cette figure, sous les draperies sépulcrales de toutes ces ombres sanglantes qui planent dans ses feuilles, a sans doute les yeux fixés sur ce malheureux aide-de-camp chargé du poids de 800 livres de chêne, n'ayant d'autre lit que des cadavres amoncelés, depuis longtemps tombés en putréfaction, et d'autres lumières dans cet asile ténébreux que les reflets de la lune, qui pénétrant parfois par un étroit soupirail, vient de temps en temps refléter de vastes clartés sur l'ivoire des crânes que le temps avait entièrement dépouillés. Ces lueurs fugitives, loin de pouvoir reposer l'âme de notre infortuné, ne faisaient au contraire qu'augmenter son effroi, d'autant plus que les rayons de l'astre du crime, venant aussi parfois se réfléchir dans l'iris des yeux des cadavres massacrés du jour ou de la veille, ces réfractions produisaient les images les plus affreuses. On vint jeter devant lui les corps sanglants des trois victimes, et ses pieds baignèrent dans les flots de leur sang. Croirait-on que l'espérance, ce rayon divin qui pénètre même jusqu'au cœur des plus grands criminels, se fit jour dans ce lieu d'horreur, au milieu des sentiments de désespoir de notre jeune victime? L'existence est si chère aux hommes qu'ils disputent à la mort le terrain de la vie pied à pied et que, tout à fait dans l'abîme, ils en ressaisissent encore le dernier fil de leur regard mourant. Dormancet, c'est ainsi que se nommait notre aide-de-camp, avait aperçu de temps à autre une ombre qui allait et venait. Et la pointe d'une lance qui avait brillé également à ses yeux ne lui laissa pas douter que c'était une vedette espagnole qui gardait ce côté du quartier général de Chaleco. Qu'inféré, cependant, de cette circonstance? Tout autre n'y aurait trouvé qu'une raison de plus de désespérer de toute délivrance possible. Et cependant, Dormancet y vit son salut. En effet, le ciel venant à se couvrir de nuages épais, un ouragan terrible lui succéda et ce chaos des éléments n'était éclairé que par les coups de foudre qui ajoutaient à l'horreur du spectacle. À la faveur de ce désordre de la nature, 25 carabiniers du 15e léger, instruits par un transfuge du repère de leurs ennemis, partent de Calvarasa, petit village distant de peu de lieues de la forêt d'Alba, se glissent en rampant, le sabre dans les dents, jusqu'aux sentinelles, jusqu'aux vedettes, les égorgent, les démontent et, se précipitant dans les catacombes, font un massacre affreux de tous les guerriers endormis. Chaleco, seul, quoique criblé de blessures, parvient à s'échapper. À ces mouvements tumultueux, Dormancet, ranimant toutes ses forces, fait entendre sa voix plaintive. Le lieutenant de carabiniers qui commandait l'expédition allume une torche et se dirige vers le point d'où les gémissements partaient. Quel spectacle de douleur et de joie! Il reconnaît son frère, son cher frère, qu'il n'avait pas vu depuis plusieurs années. Oh, le délivrer du poids de ses chaînes, le ramener triomphant parmi les braves qui avaient participé si vaillamment à sa délivrance, ranimer ses esprits défaillants par quelques liqueurs spiritueuses, tous ces tendres soins demandèrent pour ce généreux frère moins de temps qu'il nous en faut pour en faire le récit. Les richesses que nos carabiniers trouvèrent dans ces souterrains les dédommagèrent amplement des dangers qu'ils avaient courus. Au moyen de quelques barils de poudre, ils firent sauter ce cachot affreux, et les cadavres du criminel et de l'innocent, mêlés dans des masses de terre enflammées, confondirent leurs membres dans une horrible explosion. Ainsi, partout, ce sol couvre d'un même voile les victimes du crime et les héros de la vertu. Dans cette circonstance, nous croyons devoir saisir l'à-propos de citer ces vers célèbres d'Jung dans sa 11e nuit sur l'anéantissement. Quand cette nuit totale descendra sur l'univers, quand la voûte obscurcie fermera le tombeau de la race humaine, ce tombeau qui doit l'emprisonner pour ne la rendre jamais, pour apporter cette triste et dernière épitaphe, sous les débris confus des mondes démolis, sous ce vaste tombeau de la nature entière, sigille la race humaine insensible poussière, ici, près de la brute en foule ensevelie, rabaissée au destin de la vile matière, qui n'a jamais senti la vie et la lumière, dorment dans le néant ces êtres merveilleux, ces atomes pensants, espèces lamentables, souverains malheureux d'un globe déplorable, l'héritage des vers, le chef-d'œuvre des cieux. Esclaves opprimés d'un tyran invisible, ils vécurent un jour assiégés de terreur, l'autre les vit périr au milieu des douleurs. Tout leur être est rentré dans le chaos horrible. Ils ont déshonoré le nom du Créateur. Dieu, pour les tourmenter, leur montra le bonheur. Arrêtons-nous ici. Et si c'est là notre histoire, pleurons sur l'espèce humaine. Nous ne sommes plus que des fantômes, moins qu'une ombre au-dessous du néant. La nature n'est qu'une table rase. Il n'y a rien de réel que notre misère. Quelle perspective épouvantable! Un monde gémissant, la terre, un champ de carnage où le Tout-Puissant ne fait que détruire, où il n'a créé des millions d'êtres que pour leur faire sentir les transes et l'horreur de l'anéantissement. Est-ce donc dans un transport de colère que l'Éternel, interrompant son long repos, s'est levé pour se déshonorer par la création d'un semblable univers? Rétractons nos blasphèmes incrédules. Rien ne périt dans l'immense vaisseau de l'univers. C'est détruire Dieu, c'est l'anéantir lui-même que d'en faire le Dieu du néant. Un Dieu qui produit et conserve tout est le seul véritable. C'est un être bienfaisant. Son plaisir est de répandre le bonheur, etc., etc. Tout ce morceau, soit pour les vers, soit pour la prose, nous a paru ne pas occuper ici une place oiseuse. Mais quittons ce ton mésanthropique. Transportons l'imagination de nos lecteurs en de plus vastes tableaux, de plus sanglants théâtres. Et que ces horreurs épisodiques que nous venons de mettre sous leurs yeux d'une plume trop fidèle ne soient pour eux encore que des préludes insignifiants. Auprès des immenses plaines de carnage dont nous allons dérouler les plus immenses tableaux, 100 trompettes sonnent la charge sur le champ de bataille d'Alba après Salamanque. Il est 5 heures du soir, le 3 de novembre 1810, et 10 régiments de dragons français, secondés de 15 000 hommes d'infanterie, à la poursuite de l'armée du duc de la Halle-Parque, vont en une seule charge fixer la victoire sur leurs étendards. En vain, un carré d'infanterie espagnole cherche-t-il à opposer quelque résistance par ses masses pressées, hérissées de fer. En vain! La foudre vomit-elle le trépas aux 4 angles de ce carré. L'ange des combats a fait la part de la mort, et dans l'espace seul d'une heure, l'œil épouvanté verra à tous les points de l'horizon des cadavres blancs et rouges qui, étendus sur une terre pierreuse, brûle le dernier encens, exhale les dernières vapeurs de la chaleur de la vie. Nous nous garderons bien de nous engager dans des dissertations méthodiques de marche, de suivre le duc tel parquet dans sa retraite, et de faire de ces pages rapides un code de tactique militaire. Notre projet se borne à recueillir, dans les grandes destructions de l'Espagne, la partie dramatique et de l'isoler pour en composer notre galerie funèbre. Parcourons donc ce champ de bataille vaste, le lendemain même de la victoire des Français, et rassemblant tout notre courage, toutes les puissances de notre âme, efforçons-nous en philosophes stoïques de supporter ce sanglant spectacle. Mais c'est vainement qu'on voudrait entreprendre de parcourir à cheval le terrain de ces glorieuses tueries. L'animal ennemi recule effrayé, et dans sa répugnance pour ces monceaux de cadavres qu'il n'ose fouler sous ses pieds, n'accuse-t-il pas tacitement la férocité de l'homme qui n'hésite pas à marcher sur le corps de son semblable? Allons, avançons, et voyons au moral toutes ces nuances diverses, toutes ces attitudes convulsives sous lesquelles la mort montre ses traits hideux. Le givre perlé d'une nuit froide étant tombé sur ses corps entièrement dépouillés, les hémorragies des blessures ne sont arrêtées par l'effet physique de cette température, et des glaçons de sang coagulés se sont formés pendant cette même nuit à quelque peu de distance des larges coups de sabre qui ont pénétré dans les chairs. Mais si le corps est entièrement anéanti, si la nature est tout entière au tombeau, la figure parle, les muscles y expriment encore par des contorsions terribles le sentiment de rage ou de désespoir dans lequel le sujet a rendu le dernier soupir. Et cette figure animée des impressions du combat de la veille vous en rappelle l'affreux tableau. Ainsi, les passions de l'homme à leur plus haut paroxysme, quoique sur des corps inanimés, y offrent encore l'image de leur fureur. Ce sergent, frappé du coup mortel par une bizarrerie que les praticiens seuls pourraient expliquer, et qu'ils appellent, je crois, le tétanos, est resté presque debout, dans l'attitude de sa défense. De loin, vous le croiriez vivant. Ce n'est qu'en l'accrochant que vous reconnaissez votre erreur. Mais alors, sa fureur sans vie ne vous en cause que plus d'effroi, et s'il devient à nos yeux un des plus épouvantables automates du génie du trépas. Et quel est près de ce monceau de cadavres que quelques mourants soulèvent parfois des efforts de leur agonie convulsive, ce corps charmant, ce corps d'albâtre, dont les formes et la carnation d'ivoire font sur l'herbe l'effet d'une touffe de lis étendue? Retournons-le dans notre douloureuse curiosité. Hélas, c'est celui d'une jeune beauté. Aucune blessure ne paraît cependant sur le satin de sa peau. Mais son amant, qu'elle n'a jamais voulu quitter, a péri près d'elle, et ce coup mortel qui l'a atteint a également frappé sa constante amie. Là, c'est une troupe héroïque de canonniers qui ont péri sur leurs pièces. Ici, des religieux, se battant pour l'autel et le trône, un crucifix dans la main, une épée dans l'autre, ont succombé dans les efforts de leur sainte audace. Quelques ceintures remplies d'or, trempées dans des mares de sang, se laissent entrevoir près des cadavres de ces officiers supérieurs. Ces espèces de vautours suivant les armées, et qui ne vivent comme les hyènes que de la chair qu'ils exhument à coups de griffes, ne tarderont pas à les découvrir. Et si des détails nous passons dans l'ensemble, quel vaste domaine de la mort! L'œil atteint à peine les extrémités de ce sanglant tableau. Voyez-vous dans le lointain, où le soleil paraît toucher à la terre, ces cadavres rares et isolés? Ce sont ceux de quelques fuyards qui, ayant cru trouver leur salut dans la vitesse de leur course, ont cependant succombé, sabrés par la cavalerie légère. Ces malheureux ont dû d'autant plus souffrir que, tout à fait sauvés des dangers du théâtre de l'action principale, ils avaient rêvé un instant leur délivrance à l'aspect des montagnes qui bordent l'horizon, montagnes qu'ils avaient considérées comme leur précieux refuge. Mais ce n'est pas assez du sang versé par les mains de Bellone en fureur. Une politique plus cruelle ne permet pas d'épargner ce qu'elle n'a pu massacrer. Et des patrouilles, la crosse en l'air, comme à de pompeuses funérailles, achèvent à bout portant les infortunés qui ont le malheur de donner encore quelques signes de vie sur cette terre ennemie de tout être vivant. Hélas, après ces forfaits belliqueux, nous croirions n'avoir rien d'ajouter à tant d'horreurs. Et cette hécatombe de 1 000, 10 000 cadavres, qui chez les lacédémoniens méritaient les couronnes de l'aéropage. Ne semble-t-elle pas un sacrifice assez grand aux autels de Mars? Vous vous trompez, lecteur. Et si le champ de bataille vous a fait frémir, le sang qui coule de toutes parts dans la ville voisine va bien autrement épouvanter vos esprits. À l'avidité du butin se joint la brutalité des sens. Ce couvent de jeunes religieuses, qui sous la bure et la guimpe voilaient si soigneusement leurs pudibonds attraits, n'offrent plus dans leurs cellules, dans leur réfectoire, sur l'autel même, que des nudités sanglantes, que des yeux, que des mains farouches profanent dans une voluptueuse frénésie. En vain, les chefs font tous leurs efforts pour s'opposer à ces excès. L'ivresse du vin jointe à l'ivresse des sens ne connaît aucune hiérarchie. Et souvent la victime de la luxure, n'ayant plus rien qui excite la passion d'un soldat effréné, se voit plonger immédiatement dans le sein, l'épée de celui qui naguère lui prodiguait ses caresses meurtrières. L'incendie de 20 maisons éclaire la marche désespéré de 100 filles échevelées. L'or, les vêtements, les liqueurs, les comestibles, répandus dans les rues, ne laissent plus aucune espérance d'arrêter le torrent du pillage, et ce n'est que de la lassitude du crime qu'il faut attendre désormais quelque répit. Qu'il est beau, dans de telles circonstances, de voir un homme, un héros, risquer sa vie pour arrêter le désordre, et quoique vainqueur, cindre son front des nouvelles couronnes de la clémence. Qu'il est attendrissant, dis-je, de le suivre dans ses somptueux appartements qu'une soldatesque furieuse pille de fond en comble, et de le voir sauver au péril de ses jours de jeunes beautés éperdues qui le sein découvert allait succomber sous le poids affreux d'un viol multiplié. Ce spectacle n'a pas été rare en Espagne. Tous nos généraux en ont été les superbes acteurs. À cet à propos, faisons connaître la conduite héroïque de cet évêque de Palencia, qui, voyant un corps d'armée espagnol battu à la bataille du Rio Seco, prendre dans la ville le chemin de l'hôpital des blessés français, avec l'intention de les massacrer pour se venger de leur défaite, s'élance au milieu d'eux comme un trait, les devance, et montant d'un pas précipité sur les marches du péristyle de l'hôpital, s'écrie d'une voix formidable « Où courez-vous, Espagnols ? Comment, à la honte d'une défaite, vous voulez joindre la honte d'un assassinat inouï dans les annales de la guerre ? Mais avant d'arriver à mes enfants, voilà le chemin par lequel vous devez passer, leur dit-il en découvrant sa poitrine. Les meurtriers, contenus à l'aspect de ce héros, de ses dignités épiscopales, pétrifiés en quelque sorte par tant de grandeur d'âme, voient tomber les armes de leurs mains. Et cette fois, la véritable religion a sauvé des milliers de Français dont les ombres auraient de nouveaux crimes à reprocher aux Espagnes. Mais si de belles actions éclairaient parfois au milieu des hostilités les plus sanguinaires, combien de vengeances atroces n'ont-elles pas été exercées sur les Français? On a parlé longtemps à Valladolid d'un marquis, oh, je n'affirme pas cependant le fait, qui ayant chez lui logé 20-25 officiers français, leur servit un superbe dîner, dans lequel il les empoisonna tous ainsi que lui-même. Et ce ne fut qu'au dessert que, leur déclarant leur sort et le sien, il les salua d'un adieu mortel et périt le premier à leurs yeux dans d'affreuses convulsions. Ainsi, cette guerre fatale, foyer de discorde et de forfaits, justifiant des deux côtés les plus affreuses représailles, sera pour l'historien une source féconde de grands événements dans lesquels il montrera à l'avenir le miroir de la redoutable vérité qu'il serait trop dangereux de présenter à des yeux contemporains. Bornons donc ce tableau rapide de ces catacombes espagnoles. Semons de nouveaux lauriers sur les remparts immortels de Saragosse, de Rodrigo, de Lérida, de Talavera et de Tarragone. Rendons d'ailleurs une justice, hommage au courage des illustres Castillans, qui ont eu l'honneur de balancer quelquefois la gloire des Français, et formons le vœu philanthropique que dans 20 siècles, aucun écrivain ne puisse puiser une aussi douloureuse matière dans les fastes de la péninsule.